France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Regard sur le monde à venir, indicatif futur, une émission à propos de France Culture. Regard sur la radio à venir, par celui qui l'a dirigée de janvier 1975 à mai 1984, Yves Jégu, disparu le 5 avril 2012. Un regard, un œil qui écoute. Au micro, le 13 janvier 1975, alors qu'il vient de prendre la direction de la station culturelle de Radio France, l'homme de culture, de radio et de télévision qu'il était, parle d'avenir, de la fonction unique de notre antenne comme éveilleur de pensée. Déclaration d'amour à France Culture, radio, comme il le disait, unique au monde.
Invité d'Indicatif Futur ce soir, Pierre Andreux, qui a joué un rôle déterminant à France Culture pendant ces derniers mois, et Yves Jégu, qui est, depuis hier, ou tout comme, chef du France Culture de demain. Nous n'allons pas vous contraindre, Yves Jégu, à parler d'avenir. L'avenir va se jouer jour après jour, ce qui me paraît être personnellement la vraie prospective, et ça n'est pas de grandes visions ou des déclarations fracassantes que vous pouvez nous tenir aujourd'hui. Mais, si vous voulez bien, nous pourrions commencer par parler un peu de vous, de vos origines, de vos méthodes de travail, parce que finalement, tant les gens de cette maison que le public aimeraient peut-être savoir qui vous êtes.
Eh bien, bon, c'est toujours en effet possible de parler de moi, encore que ce n'est pas une habitude que j'ai prise, puisque... De la télévision d'où je viens et où j'étais plutôt enfoui à l'abri des images, dans les coulisses des programmes, plutôt que dans l'avant-scène. Je n'ai pas pris d'habitude, effectivement, de parler de ça. Mais parlons-en. Mais comment en disant, par exemple, d'où je viens, c'est-à-dire de la télévision d'abord, et de la télévision, c'est-à-dire des programmes. Puisque pendant les 7 années dernières, je m'occupais de concevoir et de produire ou de faire produire des programmes de fiction, puis de documentaires. Et j'ai prouvé pendant ces années de grandes satisfactions parce que ces programmes ont été élaborés dans les services où j'ai été responsable, avec une très grande liberté et une très grande autonomie de création. Par conséquent, j'ai pris contact là avec ce que je pourrais appeler la création indirecte, c'est-à-dire celle qui n'est pas directement sur la fabrication, mais qui se trouve entre, disons, dans le bavardage permanent entre ceux qui font les choses et ceux qui y pensent.
Et avant ?
Avant, j'étais à l'aménagement du territoire, où j'ai vécu pendant 5 ans au centre d'un observatoire absolument unique sur l'ensemble de la France, et dont le rôle était, comme vous savez, cette délégation à l'aménagement du territoire, de prévoir, disons, le rééquilibre des forces économiques, sociales et culturelles dans l'ensemble du pays par rapport à l'exagérée centralisation dont nous sommes toujours les victimes.
C'est toujours sa vocation.
C'est toujours sa vocation, maintenant. Avant, j'étais beaucoup longtemps dans les sphères de la physique nucléaire, de l'énergie atomique, puisque j'ai passé plusieurs années à Marcoule et plusieurs années au commissariat à l'énergie atomique. Et avant, j'étais, mais ça, la base de tout, le creuset qui m'a formé, c'est la philosophie, dont les préoccupations ne m'ont jamais quitté et ne me quitteront jamais, et qui sont finalement la seule véritable activité profonde qui est la mienne.
Si nous remontons encore un peu plus dans le temps, alors est-ce qu'on peut vous demander vos origines personnelles, familiales ?
Ah, mes origines personnelles sont...
Oui, j'aurais voulu dire, et avant, vous avez été un enfant breton.
Oui,
voilà, ça me paraît important.
Oui, alors bon, l'ultime Creuset, puisqu'on parle de Creuset, c'est en effet l'Ouest. Je suis un homme de l'Ouest. Et un homme de l'Ouest, ça signifie... effectivement, une certaine façon de voir les choses qui n'est pas tout à fait la même que celle qui a cours dans la civilisation très conceptuelle que nous avons sous les yeux, notamment, par exemple, à Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces pays où l'atmosphère légendaire est toujours présente, et surtout la présence vivante des mythes et quelque chose de réel, en tout cas cela a été pour moi quand j'étais petit et quand j'étais adolescent, d'une manière très, très forte, m'a en tout cas personnellement appris à ne jamais, d'ailleurs je ne pourrais pas faire autrement, oublier ou quitter ce que j'appellerais le vécu des choses. Voilà ce que j'ai appris quand j'étais petit, parce que j'étais en contact avec une nature qui ne se laisse pas oublier, et avec des hommes qui, on dit d'eux qu'ils sont des rêveurs, c'est-à-dire des gens qui sont toujours prêts à saisir l'au-delà des choses.
André Malraux dit quelque part, je ne sais plus trop où, qu'il faut demander à un homme quelles sont les lectures qui l'ont marqué entre 18 et 24 ans et que ce sont ces lectures qui sont déterminantes. Mais peut-être, en quittant les lectures, est-ce qu'on peut vous demander quels sont vos prophètes familiers ? Les gens qui ont vraiment marqué pour vous votre existence.
Ça, vous voyez, je serais presque tenté de ne pas répondre. Parce que je sens vraiment que si je le fais, je m'embarquerai dans une réponse qui m'engagerait quelque part où je ne suis pas tout à fait. Puisque si... les berceaux livresques auxquels vous faites allusion ont bien existé pour moi, je dirais qu'ils ont introduit en moi, non pas le doute perpétuel, mais l'atmosphère de la question. Si bien que j'ai été, bien entendu, au contact de tout ce qui a été les légendes celtes. Bien entendu, tout ce qui concerne la quête du Graal a été pour moi déjà en adolescent une aventure psychique vécue importante. Et ensuite, bien entendu, j'ai pris contact quand j'étais en Cagnes au lycée Henri IV avec le grand Descartes, qui ne peut pas ne pas m'avoir marqué, et avec toute la philosophie classique. Mais celui qui m'a, en philosophie, profondément marqué le plus, je dis bien entendu, en ce qui me concerne, c'est quand même Platon. Bien que de l'Ouest, j'ai été tout le temps, toujours sensible à cette pureté de la pensée et du langage qui fait qu'il ne semble pas qu'il y ait dans cette... dialectique, ou dans cette façon de faire de la philosophie, de distance absolue entre ce vécu et ce concept.
Si vous le voulez bien, nous quittons maintenant votre univers personnel, Yves Aigu, et je voudrais vous demander ce qui est important pour vous dans le développement culturel de notre époque, en particulier dans cette culture qui passe par les médias et qui est une culture très définie. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui est le plus important à conserver, à garder ou à développer dans ce domaine qui est le nôtre ?
J'ai, pour ma part, l'impression qu'il y a... contradiction, c'est pas le mot, qu'il y a une sorte de combat ou de dialectique qui s'instaure petit à petit entre les pensées qui veulent absolument se situer à l'intérieur des limites de l'espace et du temps et les besoins et les pressions profondes qui agitent l'humanité probablement plus peut-être on ne le croit et qui tentent à les faire sortir de ces limites de l'espace et du temps dans une pensée, disons, de l'unité du monde, je dirais pas d'une pensée d'éternité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chaîne comme France Culture, par exemple, ne doit pas dirais-je, oublier qu'elle est d'abord et avant tout un éveilleur de pensée. Et non pas une porteuse de messages. Et que par conséquent, son rôle, à mon avis, en réfléchissant très vite comme ça, puisque je viens juste de confronter ce qu'une pensée solitaire peut avoir dans sa rencontre avec une action immédiate, là, il y a un problème très important, celui de l'éveil plutôt que du message, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est tellement impossible, à mon avis, dans ce monde, de dire des choses qu'on ne sait pas, en faisant croire qu'on les sait, que toute attitude qui se réfère au respect le plus grand de la liberté d'autrui, dans sa démarche personnelle pour arriver à percer vers le jour, la nuit dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent, que il devrait y avoir presque une sorte d'ascèse personnelle qui serait recommandable à chacun d'entre nous pour l'exercice de ses fonctions sur une chaîne aussi noble que celle-là.
Pierre Andreu, vous qui avez touché du doigt d'une façon pratique et souvent difficile ce que l'application d'une réflexion de ce genre à la vie courante de France Culture.
Je crois que à France Culture, pendant les quelques mois, car c'est vraiment la direction que j'ai exercée, est une direction qui a été assez éphémère. C'est vraiment un trait d'union entre une chose qui allait disparaître et quelque chose qui va naître. Se situe déjà dans des perspectives assez proches de celles d'Yves Jégu. J'ai toujours pensé extrêmement fortement qu'il fallait avant tout éveiller des vocations. D'ailleurs, cette expression n'est pas de moi, mais je la fais entièrement mienne. Éveiller des vocations, non pas au sens, et bien que ça ne soit pas du tout un sens inférieur, si l'on réussit à faire comprendre à quelqu'un que sa vie doit se dérouler dans un certain axe, à l'intérieur d'un certain corps de métier, c'est déjà une chose très belle. Mais éveiller des vocations au sens le plus élevé, c'est-à-dire éveiller des vocations vers la connaissance, éveiller des vocations vers la compréhension. Et là, donc, j'écoutais bien Yves Jégu, et à l'instant, et alors il disait une chose qui était extrêmement... Il marquait fortement en philosophe, et en philosophe platonicien, ou anciennement platonicien.
Oui, en tout cas.
Ou anciennement platonicien. Oui. Et, enfin, qu'il y a deux mondes, c'est pas qu'il y a deux mondes, il y a un monde, même s'il y a un monde matériel, même si c'est le monde des apparences, c'est aussi le monde de la matière. Et il y a aussi autre chose, Et il est sûr que dans qu'une grande chaîne comme France Culture, elle doit être à la fois la chaîne du monde des apparences, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, et elle doit aussi être la chaîne qui ouvre sur les recherches de l'esprit les plus difficiles, les plus personnelles et les plus courageuses.
Mais là, alors, on se heurte à un problème qu'on rencontre tout le temps dans notre métier, c'est celui du langage. Parce qu'il y a un décalage énorme, maintenant, au niveau actuel de notre société, entre ce que j'appellerais les têtes chercheuses, celles qui ont des capacités d'invention et qui nous font avancer, et puis le public qui souvent s'essouffle derrière. Alors, une chaîne culturelle, comment peut-elle tenir les deux bouts, les deux pôles de ce langage? Le langage très technique, très spécialisé, et puis le langage plus simple et plus vécu, comme vous disiez tout à l'heure, Yves Jégu.
Moi, je crois qu'il y a deux possibilités, enfin, ou deux réponses possibles. La première, c'est que les émissions soient organisées en tenant compte de la différenciation des publics. Donc, on puisse imaginer, bien entendu, des émissions au langage et d'érudition extrêmement complexe et qui fait appel à des connaissances très, très précises et qui s'adressent à des gens très, très précis. Et d'ailleurs très variés dans leur choix, dans leur variété. Mais aussi, disons, par la création d'une attitude d'esprit qui serait une attitude de langage et qui ne se résumerait pas par le bon sens le plus connu des Français, qui est qu'en effet, tout ce qui est très très bien pensé et très intelligemment su se dit avec une grande simplicité. C'est un problème qui pourrait paraître insoluble si on s'imaginait que les gens qui nous écoutent sont moins profonds qu'on ne croit. Et moi, j'ai jamais pensé que les auditeurs sont si plus superficiels que cela. Je pense qu'il n'y a pas... Je ne vois pas pourquoi je me considérerais moi-même, parce que j'aurais écrit quelques livres très compliqués, comme tout d'un coup plus profond, plus clairvoyant, que bien des gens qui, dans leur silence, sont parfaitement capables de comprendre énormément de choses, beaucoup plus de choses en tout cas qu'on ne le croit.
C'est dire que favoriser ce genre de création d'un langage plus direct, même s'il intègre des données beaucoup plus savantes, ça sera un de vos soucis.
Si, certainement. Oui. Je crois que surtout, finalement, il faut essayer, chaque fois qu'on le peut, de favoriser l'esprit de synthèse. Non pas du tout qu'il faille jamais faire appel à des émissions analytiques, mais quand même... Prenons des émissions scientifiques ou philosophiques qui ne prendraient chaque fois, qui n'aborderaient chaque fois qu'un détail d'un ensemble sans jamais rappeler l'ensemble. Alors en effet, je crois que là, ça peut être incompréhensible. Alors que des émissions sur des détails de la vie scientifique ou de la vie philosophique, mais qui seraient quand même chaque fois rétablies dans leur contexte, dans leur sens général, serait beaucoup plus facile à comprendre. Or, il est évident que, quelquefois, c'est ce qui se passe, qu'on a des émissions presque au détail, alors qu'il faudrait que, même quand elles sont au détail, elles ne soient jamais éloignées, chaque fois qu'on les fait, du sens général dans lequel elles s'inscrivent.
Est-ce que vous avez le sentiment que la radio peut vous permettre, davantage que la télévision, d'approcher ce genre ?
Finalement, oui. Oui. Je crois que les images de la télévision ou du cinéma ont ceci de particulier et au fond d'un peu dangereux, d'un peu décevant ou un peu difficile, c'est que toute image est une synthèse vivante, mais dont on n'a pas l'analyse. Elle n'a pas la même puissance, polyvalence d'expression que la parole. On en reviendra toujours là, finalement. Quoi qu'on veuille, si on entend par l'imaginaire le simple monde des images, c'est un monde qui n'a pas la liberté ailée, comme auraient dit justement les Grecs, de la parole. Et retrouver la parole dans toute son agilité, c'est quand même, pour moi, un plaisir.
En écoutant Yves Jégut, je me rappelais, je crois, la première fois où je l'avais vu, et où nous avions eu une conversation très large et très à bâtons rompus sur France Culture, et où je m'efforçais de faire passer vite la petite expérience que j'avais pu réunir, assembler, engranger en 2 ans. Et je lui ai remis un paquet de lettres, de quelques centaines de lettres, que nous avions reçu en une semaine, en 72, en 72, d'auditeurs de France Culture. Et ces lettres, parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, m'ont permis, je crois, de cerner l'auditoire actuel. Alors, comme toujours, ce n'est pas que cet auditoire ne doive pas être étendu, mais il y a déjà un auditoire. Et alors, là, cet auditoire C'est un éditoire beaucoup moins élitiste qu'on ne le croit. Nous sommes très très peu écoutés par des professeurs de faculté, très peu par des professeurs de l'enseignement secondaire, à peine par des étudiants. Nous sommes écoutés par des gens simples, soucieux de comprendre. Ayant très peu de diplômes, ayant à peine une instruction en primaire supérieure, mais qui toute leur vie ont eu le souci de s'élever et se sont appuyés sur les émissions de France Culture souvent pour le faire. Et d'une manière très touchante, l'on voyait ces gens qui écrivaient, vous savez, il y a un débat, on nous dit que France Culture est menacée, on nous dit que on va diminuer la qualité des émissions de France Culture pour les rendre plus accessibles. Surtout, ne le faites pas. Et certainement, vos émissions sont quelquefois difficiles, mais ça ne nous empêche pas de les suivre. Et quand elles sont difficiles, au contraire, ben, nous nous accrochons avec beaucoup plus de soin. Et s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, après l'émission, on va prendre un dictionnaire pour essayer de voir ce que ça voulait dire. Mais c'est cela que nous attendons de vous, c'est-à-dire une pâture difficile et non pas un brouet déjà digéré.
Dans une maison perturbée comme elle l'a été, il est important pour tous de savoir ici comment vous avez l'intention de travailler.
Travailler, c'est-à-dire
D'ouvrir ou de fermer ou de...
Oh,
je dis ouvrir non, parce que je sais...
On répond toujours ouvrir. Alors.
Oui,
on répond toujours ouvrir, mais je crois bien que
on
c'est...
On répond toujours ouvrir, bien entendu. Comment vous dirais-je? Vous savez, J'ai senti dans cette atmosphère où quelquefois la hâte était presque un principe, qu'il fallait faire d'abord et avant tout extrêmement attention pour en revenir justement à ce qu'on a dit tout à l'heure, au vécu de chacun et de chaque chose aussi. Et que ma méthode de travail, qui justement n'est pas une méthode, et qui consiste à penser qu'on ne fait pas pousser les arbres en tirant sur les feuilles, et ou bien que, comme on dit à Lyon, le temps a besoin de temps, et il faut, pour moi, d'abord comprendre et voir, c'est-à-dire pas simplement me faire une idée organigrammatique de la situation, mais une idée très global de ce qu'est le public dont vient de parler Pierre Andreu, de ce que nous sommes, nous, de ce que vous êtes, de ce que sont tous les gens qui travaillent ici, de ce que sont les moyens techniques, les techniciens qui les utilisent, et de manière à trouver petit à petit, disons, un minimum d'unité dans la façon, non pas de faire des programmes, mais de les désirer, de les vouloir et de les faire en commun, si vous voulez. Alors, c'est pas une méthode, c'est une attitude d'esprit plutôt. La méthode, je crois que j'en ai pas beaucoup. C'est la seule que j'ai toujours pratiquée, qui est un peu l'inverse de celle, si je me permets cette comparaison par humour, l'inverse de celle de Napoléon. Il paraît que Napoléon disait « D'abord je m'engage, ensuite je vois ». Ben, moi, je fais plutôt le contraire. Donc, j'en suis pour le moment à la période d'observation active, qui consiste à voir d'abord et avant tout le monde. Parce que ça me paraît, à moi, d'une importance absolument capitale, étant donné que dans la cacophonie générale de tout ce bouleversement, bien, il faut faire justement comme Descartes l'a toujours recommandé, il faut que je me fasse mon idée à moi, mais pas subjective, qui est celle qui naîtra de nos rencontres réciproques pendant tous les jours qui viennent.
Pierre Andreu sait à quel point on a le souci dans cette maison du colloque, de la participation, et que vraiment la rencontre est fortement souhaitée. Mais est-ce que je peux vous demander, alors, puisque vous avez parlé de synthèse tout à l'heure et de l'intérêt qu'il y avait à résumer, à dire quelque chose du tout par rapport à la partie. Nous avons essayé un tout petit peu de tracer quelques lignes, en vous connaissant mieux, quelques lignes qui touchent à l'avenir. Est-ce que, pour finir, je peux vous demander de me dire en quoi vous voyez déjà, dès à présent, quel est le territoire qui sera propre à la radio dans les années qui viennent, car ça me paraît déterminant. Je crois que la radio va avoir à se dire d'une façon très précise par rapport à la télévision, et en particulier la radio culturelle par rapport aux autres radios. Est-ce que vous avez déjà des idées là-dessus ?
Tout ce que font des radios comme France Culture ou France Musique, et peut-être surtout France Culture, c'est sans cesse et sans cesse de proposer dans... au milieu des fébrilités, des actions quotidiennes, ou à moyen terme, ou à court terme, qui sont le tissu de la vie, le recours, je dirais presque paradoxalement, au silence. Et le silence, c'est-à-dire la distance avec les choses qui permet la réflexion. Et la réflexion qui, mettant en avant les mécanismes de l'intelligence plus que ceux de l'action ou du dynamisme, laisse à ces programmes une possibilité d'attirer à lui un public, à mon avis, de plus en plus grand, dans la mesure où ils sauront allier cette façon de faire des programmes avec un ton et une variation dans l'ensemble de la modulation de des programmes et de leur programmation qui puisse faire de cette chaîne une chaîne totalement à la fois homogène, unique et perceptible par un très très grand nombre. Moi, je suis très optimiste sur une chaîne comme France Culture. Alors évidemment, par rapport à la télévision, c'est un problème plus compliqué. Enfin, plus compliqué. C'est la télévision et la radio, c'est vraiment elles font l'opposé l'une de l'autre, puisque la télévision, dès qu'elle s'ouvre, dès qu'elle s'allume, dès que l'image est là, elle a le don de fixer comme un aimant à la limaille, les millions de téléspectateurs qui s'agglomèrent autour du poste. Tandis que j'ai l'impression que nous sommes là devant un public migrant, mobile, perpétuellement en train de bouger, et que donc nous courons après au lieu que la télévision le fixe. Et que ça, évidemment, ça a une grande incidence sur la programmation, en tout cas, puisque ça signifie que il y a des moments par exemple dans France Culture, où on a l'impression que les publics changent toutes les demi-heures. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui sont là, ils s'en vont, et puis d'autres arrivent, et ils restent là une demi-heure. Il faudrait donc tenir compte, en fait, d'une connaissance assez raffinée de ces mouvements migratoires quotidiens de 7h du matin à minuit. Et ça, je crois que c'est pas très difficile à faire. Alors je crois que ça, c'est une des incidences sur le futur, parce que la radio est peut-être en train de dépasser son complexe à l'égard de la télévision, qui aura donc été momentané. Et je crois qu'au fond, nous qui arrivons de la télévision, nous en serons, j'espère, une grande preuve. Et de retrouver, de ce fait, avec son public, un lien nouveau, et donc aussi fructueux qu'il l'était avant la télévision.
Pierre, une dernière question, mais c'est peut-être vous qui avez envie de la poser à Yves Jégu.
Je suis d'accord avec ce que disait Yves Jégu. Je trouve que moi, j'ai très confiance dans France Culture.
C'était Indicatif Futur, regard sur le monde à venir, à propos de France Culture, diffusé le 13 janvier 1975 en compagnie d'Yves Jégu. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.